venez les potes, venez chez moi, y'a pas papa. Et venez les potes, y'a pas papa, y'a pas papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Et venez les filles, bijou chouchou Lady Diana, pou pou zizi, mimi papa, y'a pas papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piqué dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi donc de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi donc de la voilà papa. Et Cristobal, laisse donc ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini rigolade, la la, quelle salade. Et t'es des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et t'es des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça c'est du vrai trapèze, ça c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dit tes potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dit Bobby, si ton papa que tu cherches, ben je vais te le rendre.
Et oui, bonsoir, vous êtes bien à la causerie sur Radio Canu, on est dimanche soir, il est 22h07 brouette. Et ce soir, autour de la table, nous avons Fab.
Salut.
Jean-Yves.
Bonsoir.
Et Clara, bien sûr, à la technique.
Bonsoir.
Il n'y a toujours pas de lumière pour dire qu'on est à l'antenne, ça fait
petit
bizarre.
Stress.
Et du coup, Emma était un peu stressée, elle attendait, elle dit « Ah, la lumière !» Et non, pas de lumière.
Mais personne ne savait que c'était Emma, en fait.
C'est pour ça que je la présentais.
Okay. Oui, c'était...
Ah ouais, ok, d'accord, voilà. Ouais, je suis vraiment pas...
Ça va, Emma?
Ça va, merci.
Et puis on salue les absentes.
Ah bah oui, on peut faire ça.
Allez.
On salue Jonathan.
Et Jennifer, non, rien à voir. Et Nadège. Évidemment.
C'est... Oh, c'est laid.
Pardon, j'ai un peu de la fièvre.
Et on va peut-être rappeler les principales infos pour et nous contacter et retrouver aussi tous les podcasts de la causerie.
Alors, où c'est que ça se passe donc?
Mais oui.
Alors, le blog déjà.
Alors, c'est bon, je l'ai. Présent. C'est blog au pluriel, blogs.radiocanu.org/la causerie. Et vous y trouvez, comme tu disais, tous les podcasts, mais aussi les liens qui vont vous emmener vers les différents artistes, etc., qu'on a pu recevoir. Voilà. Et on a un mail aussi.
Alors, le mail, c'est lacausericanu@gmail.com, tout attaché en minuscules.
Et j'en profite vite fait, c'est juste pour remercier Clance, Eddy et les personnes qui mettent des commentaires sur le blog. Ouais. C'est cool.
Bah oui, ça fait du bien d'avoir des retours.
Et puis on a aussi une page Facebook, mais n'y allez pas trop, allez plutôt sur le blog.
C'est ça.
Parce qu'on ne sait pas bien la gérer. Voilà,
ça c'est dit.
Je crois qu'on va commencer.
Bah ouais, Fab, tu voulais nous parler d'un petit documentaire que tu avais vu.
Oui, alors c'est un documentaire qu'on trouve assez facile. Ça s'appelle You Can Touch My Hair. Voilà, alors vous le trouvez sur YouTube, ça date de 2013. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire du documentaire. Ça vient d'un site qui s'appelle Unruly. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est UN-RULY. Et ce site milite au travers de ce qu'ils appellent le fashion activisme. Alors, vous mettrez tout ce que vous voulez derrière, mais c'est un terme très américain. Mais pour que les cheveux afro-américains et métis aient un droit de cité dans la cité. Voilà. Et ils ont remarqué qu'en fait, dans la mode, dans le cinéma, et même chez les chanteuses, quand on est afro, souvent on se lisse les cheveux, voire on les coupe, on les attache, mais on fait en sorte que ça se voit pas trop. Et eux, ils disent que c'est lié au fait qu'on n'a pas habitué les gens à voir les cheveux afro tels qu'ils sont depuis les années 80, où on recommence à les cacher, alors que c'était une fierté, notamment à l'époque des Black Panthers dans les années 60-70, et que le contre-coup s'est fait pour eux à travers la mode qui a servi à uniformiser la façon dont on s'habille, la façon dont on se coiffe, la façon dont on est. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation du site. Et le documentaire, lui, parle de ça, mais pas tout à fait sous cet angle-là. En fait, le documentaire, qui est en fait plus une expérience sociologique qu'un documentaire au final, quand on regarde bien, c'est l'idée de mettre des gens dans un square à New York, si ma mémoire est bonne, et de leur mettre un petit panneau, comme ça, vous pouvez toucher mes cheveux le premier jour. Et donc, ces personnes sont toutes d'origine afro-américaine, comme on dit aux États-Unis, ou caraïbéenne, ou métisse, voilà. Et elles présentent toutes la particularité d'avoir des cheveux. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce que justement, c'est pas tellement une particularité d'avoir des cheveux. Normalement, la plupart des gens en ont, à part les chauves. Mais globalement, même quand on n'a pas de cheveux, finalement, on remarque qu'on n'a pas de cheveux. Donc c'est quand même quelque chose qui est courant d'avoir des cheveux. Ouais, d'accord.
Voilà. Y a-t-il un piège?
Il n'y a pas de piège, mais vous allez voir que c'est très bête parce que je dis ça, parce que justement, en fait, quand on est métisse ou d'origine africaine ou voilà, assez vite, on vous rappelle que vous avez des cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, assez facilement, on vous touche la tête pour dire oh, comment ça fait, c'est bizarre, c'est étrange ces cheveux, ou oh, j'aurais toujours rêvé de toucher la tête de quelqu'un qui a des cheveux crépus. Voilà. Et du coup, le documentaire parle de ça, du fait que pour beaucoup de personnes d'origine africaine, caraïbéenne, enfin ou autre, ou des Antilles ou autre, et en fait se pose le problème d'être abaissé systématiquement au fait de ne pas être comme les autres, parce qu'a priori on a le droit de leur toucher la tête sans leur demander. Et c'est un petit peu de ça, sur cette idée-là, que parle le documentaire, et sur la fascination, comme elles le disent, que procurent les cheveux crépus sur l'ensemble de la population. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, moi j'avais un peu peur, parce qu'aux États-Unis, des fois, on a ce genre de documentaire, c'est un petit peu manichéen, c'est les bons, les méchants, et puis voilà. Là, c'est un peu plus nuancé, c'est-à-dire que vous avez la parole de pas mal de gens. Alors, c'est un peu embêtant parce qu'ils donnent pas tellement la parole aux gens qui touchent. Ça, je trouvais ça un peu dommage. Mais plus aux gens qui sont touchés ou qui peuvent l'être. Et là, c'est... Voilà. Mais c'est un parti pris qui peut s'entendre. Et il y a en fait la réflexion autour de la notion de est-ce que ça me dérange ou est-ce que ça me dérange pas? C'est la première grande question qui se pose. Est-ce que finalement j'accepte qu'on me touche les cheveux sans me prévenir ou pas? Alors il y en a qui disent oui, c'est pas bien grave, voilà, c'est pas méchant, voilà. Il y a d'autres qui disent bon, ça dépend comment c'est fait. Parce que quand même, souligne quand même l'idée que des fois c'est fait quand même avec un bon vieux fond de racisme bien ancré, quoi. C'est-à-dire, après tout, comme c'est un être inférieur, on peut bien lui toucher la tête, hein, oui. C'est, voilà. Et puis il y a des gens qui disent moi on n'a pas à me toucher, point barre. Et les trois s'entendent au final, hein, quand on y regarde bien. Et c'est intéressant parce que justement, les trois paroles s'expriment de façon assez amusante, parce que du coup, on voit qu'il y a des choses qui se croisent dans leur façon de voir les choses. Ça finit par se croiser et qu'en fait, on se rend compte que finalement, il y a un truc sur lequel tout le monde tombe d'accord, c'est que faudrait déjà au moins demander. Ce serait le minimum légal, vital, on va dire. C'est-à-dire de poser la question, est-ce que je peux te toucher la tête avant de toucher la tête de quelqu'un? Et puis qu'en fait, même celles qui disent que ça les dérange pas, au bout d'un moment, elles admettent que au bout d'un certain nombre de fois dans la semaine, ça commence à devenir un peu gavant. Parce que ça se compte en nombre de fois dans la semaine. Hein.
C'était ça mon truc, j'ai réagi là-dessus, mais parce que ça leur arrive plusieurs fois par semaine.
Ouais, c'était, en fait, c'est ce qu'elle raconte alors je sais plus d'où elle est, mais une des témoignantes, je pense que c'est comme ça, elle dit, en fait, elle, ça lui arrive finalement quasiment tous les jours. Donc c'est assez fréquent, parce qu'en fait, elle porte une coupe afro assez, assez volumineuse, et du coup, elle dit oui, du coup, les gens, ouais, assez facilement, ils ont tendance à me toucher la tête. Et c'est là qu'on se dit, oui, c'est pas juste un petit problème qu'on soulèverait comme ça pour déconner, c'est qu'il y a un vrai problème de rapport à l'autre et à son corps. Et justement, c'est là que c'est intéressant parce que le reportage ne s'arrête pas à l'idée de dire oui, c'est pas bien de toucher les cheveux des autres, parce que ça c'était un peu le béaba, mais c'est plutôt une réflexion autour de la notion. Alors, les Américains appellent ça l'africanité. Moi, je trouve que c'est un terme qui est un peu particulier parce que, bon, voilà, est-ce que les gens qui habitent aux Antilles aujourd'hui sont toujours africains ? Enfin bref, c'est la vision très américaine des choses. Mais en fait, disons qu'il s'interroge sur ce qu'aurait appelé. Comment il s'appelait, Aimé Césaire, la négritude en fait. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup il s'interroge sur la notion de l'image qu'on a des personnes noires dans la société, qu'elles soient métissées ou noires non métissées comme ils disent dans le reportage. J'aime beaucoup les nuances qu'ils font, mais qui moi m'amuse un peu parce qu'en fait du coup c'est on sent quand même que c'est un reportage américain, c'est-à-dire qu'il y a une notion de case un peu tout le temps qui vient se mettre. Mais bon, après le fond est intéressant parce que du coup il y a la notion de est-ce que c'est qu'est-ce qui fait que dans la société, encore aujourd'hui, on s'interroge quand on voit quelqu'un qui a une coupe afro ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve pas ça normal ? Qu'est-ce qui fait que quand on voit des cheveux crépus, on a une réaction qui est différente que quand on voit une grande Suédoise blonde avec des cheveux blonds ? Et en fait, elle l'explique, il y a une intervenante qui l'explique très bien, qui dit, en fait, c'est simplement parce qu'une grande Suédoise blonde, vous en voyez tout le temps, sur toutes les pubs. C'est-à-dire que la plupart des mannequins sont blondes, alors qu'elle le dit, les blondes ne représentent que 5% de la population mondiale. Et vous avez pourtant l'impression que tout le monde est blond. C'est un peu étrange, mais voilà. Et elle dit, du coup, c'est parce qu'on n'a pas habitué les gens à voir des personnes d'origine africaine ou autre, d'ailleurs. Parce que ça peut, je pense, se transcrire avec les origines asiatiques, d'ailleurs, parce que c'est un petit peu intéressant, parce qu'il y a le même projet qui est en cours avec des, je sais plus comment on dit, sino-américains, je crois. Voilà. Et du coup, il y a quand même la réflexion de c'est quand même la normation qui fait qu'on est surpris. Alors que c'est ce qu'ils disent, c'est que les Afro-Américains représentent 25% de la population américaine. Donc c'est pas non plus, des gens que vous croisez pas tous les jours, quoi. Donc en fait, elle dit, vous avez plus de chances de croiser un Afro-Américain ou une Afro-Américaine que de croiser une Suédoise blonde. C'est-à-dire quoi, voilà. Et c'est intéressant parce que c'est la notion en fait de perte de repère qui est liée à la normation, c'est-à-dire que la norme est donnée par la mode, par la pub, par le cinéma. Et donc c'est pour ça que ce site milite pour qu'il y ait enfin des acteurs et des actrices qui puissent porter s'ils le souhaitent, parce qu'on va, je vais aller dans la troisième partie du reportage, qui peuvent porter s'ils le souhaitent une coupe disons connotée socialement, comme ils disent, sociétalement pardon, comme ils disent. Et c'est intéressant parce que du coup découle la troisième partie du militantisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça. C'est-à-dire que voilà, alors il y a des gens qui disent moi j'ai pas envie que ma couleur soit un vecteur de militance dans ma vie, donc l'exprime en disant non, après tout on s'en fout, voilà, c'est un petit peu l'idée, et je trouve ça s'entend très bien. Il y en a d'autres qui disent j'aimerais bien m'en foutre, mais comme en fait de toute façon on me ramène toujours à cette couleur-là, j'ai envie de pouvoir réaffirmer le fait que je suis avant tout un être humain et avant tout quelqu'un à qui on ne doit pas toucher la tête quand ça vous arrange, et à qui on ne doit pas poser des questions du genre « Eh, tu mets quoi sur tes cheveux pour les lisser alors que ça fait même pas une minute qu'on se connaît ?» comme elles disent, parce qu'en fait c'est là-dessus que c'est basé, c'est qu'elles expliquent toutes que, parce que c'est que des femmes, je précise dans le reportage, elles expliquent toutes qu'en fait qu'un ami vous demande ça au bout d'un certain temps, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand quelqu'un vous demande ça au bout de 3 minutes. C'est-à-dire, c'est que, on vous regarde, puis on vous dit, là, c'est marrant parce que t'es noir et t'as les cheveux lisses, comment tu fais? Alors, bref, je veux dire, c'est un truc, ça n'aurait pas l'idée de demander à un punk qui passe dans la rue, comment tu fais pour que tes cheveux tiennent dans l'air? Enfin, c'est un peu la même chose. Et du coup, c'est assez drôle parce que, il y a quand même, là aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que même celles qui disent elles en ont rien à faire, au final, on se rend compte dans leur discours que, si, finalement, ça blesse quand même, malgré tout, même si elles essayent de tempérer ça, il y a la notion quand même qu'à un moment donné, être l'animal de foire des gens, ça devient vite gavant. Et voilà, et je trouve, je voulais vous parler de ce reportage, parce que je vous conseille de le regarder. C'est léger, parce que ça peut paraître comme ça léger, et en fait c'est un sujet qui, derrière sa légèreté, amène quand même des bonnes réflexions sur le vivre ensemble, sur comment on se perçoit les uns les autres, et puis sur ce qu'est la normation, parce qu'effectivement il y a une vraie réflexion autour de la normation. Et c'est assez amusant parce que était proposé parce que je l'ai trouvé sur YouTube, on ne devrait pas le dire, mais on va le dire quand même. D'ailleurs, si vous voulez le voir en français, il faut taper You Can Touch My Hair français, et vous avez les sous-titrages en français. Et il était proposé juste à côté un autre reportage qui est très intéressant, qui a été fait en Suède, alors qui lui n'est pas traduit, et je vous assure que c'est traduit qu'en anglais, donc c'est voilà, et qui est exactement sur la même logique, mais avec les personnes d'origine pakistanaise, parce qu'en fait c'est une population qui est assez présente en termes de migrants en Suède, et c'est drôle parce qu'on retrouve des similitudes avec ce que vivent les Afro-Américains et les Afro-Américaines. Sauf que c'est un petit peu là que ça devient glaçant, c'est qu'on se dit, mais le problème, c'est que ça fait 3, 4, 5 générations que ces gens arrivent et puis pour les Afro-Américains, ça fait bientôt 400 ans. Mmh. Même plus de 400 ans. Donc on se dit, mais à quel moment on arrête finalement de voir les autres comme inférieurs? Ben, c'est la vraie question que ça pose, quoi. Voilà. Et je vous conseille, c'est intéressant. Voilà. Si vous avez des trucs à demander, c'est maintenant.
Non? Moi, c'est juste une remarque comme ça. C'est juste, en fait, je m'interroge toujours, en fait, sur... Enfin, comment les gens, ils arrivent à approcher quelqu'un et lui toucher les cheveux, quoi. Enfin, je te jure, moi, ça me dépasse, en fait. Mais enfin, après, je sais peut-être... Mais je trouve que c'est juste hallucinant. Enfin, de quel droit tu te permets d'aller... Mais que ça soit pour les cheveux ou même pour autre chose, quoi. Enfin, tu ne touches pas le corps de l'autre, enfin, sans... Je sais pas quoi. C'est
la première interrogation du reportage, enfin du documentaire, c'est justement ça. C'est à quel moment on s'octroie le droit. Ah, c'est drôle parce que le lendemain, il y en a qui sont revenus avec des panneaux avec marqué "Tu n'as pas à toucher mes cheveux". C'est-à-dire qu'il y a aussi la. D'ailleurs, il y en a même qui a écrit "Tu n'as pas à me toucher". Et il y en a une qui a mis "Si tu me touches les cheveux, je te touche les couilles". C'est drôle d'ailleurs, parce qu'en plus, elle.
C'est pas "Je te frappe".
Je te frappe les couilles. Enfin, c'est I break your bollocks, ce qui veut dire.
Je crois que je t'ai prise en fait.
Voilà. Et c'est intéressant. Parce que du coup, on voit bien justement que, en plus, elles le disent, c'est souvent des hommes en plus. C'est plutôt des hommes qui ont tendance à venir et à toucher. Et donc voilà, c'est intéressant de réfléchir à cette notion-là aussi. Mais voilà, après, c'est le but, c'est ce qu'elles disent aussi, c'est pas de dramatiser, mais c'est de dire qu'on doit réapprendre à vivre ensemble et que c'est terrible de devoir réapprendre et qu'elles sont persuadées, je suis d'accord avec elles, que moins on aura d'Afro-Américaines, moins on aura d'Africaines, moins on aura de personnes d'origine de différentes îles, présentes dans les médias et avec le droit de s'habiller, de se coiffer comme il et elle le souhaitent, eh ben, moins on aura de vivre ensemble facilité. Voilà, c'est ça le truc. Et attention, elles ne sont pas du tout pour que toutes les femmes afro-américaines portent forcément une coupe afro, parce que je précise. Elles sont pour la liberté de chacun et de chacune, et justement la liberté induit de ne pas avoir de questions quand on change de coupe de cheveux, par exemple, vous voyez. Tout bête.
Par exemple.
Et de ne pas être traité de traître non plus quand on se lisse les cheveux et qu'on est. Parce qu'elle nous en parle aussi dans le.
Mais oui.
Voilà. Donc c'est intéressant. Voilà.
Les normations, elles peuvent venir
de tous les côtés. Voilà. C'était bien, hein.
Ça, bah oui.
C'était un sujet un peu plus léger que d'habitude.
Oui.
Et en même temps,
il était si politique,
ça,
en fait.
Ouais.
Oui, mais ça, je sais pas bien faire les Je peux essayer la semaine prochaine, si vous voulez.
Bah ouais, je sais pas, on pourrait parler de.
Moi, je peux déjà annoncer que la semaine prochaine, je viens juste à l'émission, je ne fais pas de sujet, donc voilà. Mais vous aurez ma voix quand même.
Voilà. Profitez-en bien avant qu'un jour vous n'entendrez plus sa voix. Bon, on va peut-être passer.
Et moi, je dis, on passe une sorcière maintenant en musique. Allons-y.
Ok.
Ok.
Spell on you. Cause you're mine. Do, do, do,
l'immense, la magnifique, l'étonnante Nina Simone dans La Causerie sur Radio Canu entre 22 et 23 heures. Pourquoi je voulais commencer plus tôt, moi ?
J'étais fatigué en fait.
Ah ouais, je pense.
Entre 22 et 23. Alors je voulais juste dire pourquoi Nina Simone, parce que c'est intéressant.
Pourquoi la sorcière ?
C'est pourquoi la sorcière, parce que oui. I put a spell on you, je te jette un sort.
Oui.
Et voilà, donc c'était l'idée de charmer par un sort. Et surtout qu'il y avait une interview qui avait, après la sortie de cette chanson, qui disait que Nina Simone ensorcelait les gens avec sa voix, ses yeux et ses cheveux. Ça tombe quand même vachement bien. D'accord. Donc voilà, et c'était justement parce qu'elle portait souvent des coupes afro et que c'était assez rare finalement, même à l'époque, et que du coup, on le disait qu'elle ensorcelait les gens avec ses cheveux. Vous voyez, c'est comme quoi on revient au sujet et tout.
Mais oui, un beau lien.
Et d'ailleurs, en parlant de sujet, je crois que c'est un petit peu à toi, Emma. Et
oui,
tu vas nous parler d'un livre.
Oui, je vais vous parler d'un livre. Vous savez, j'ai souvent des coups de gueule, mais il m'arrive aussi des fois d'avoir des coups de cœur.
Tu as donc un cœur.
Oui, il semblerait, et il ne sert pas qu'à pousser des coups de gueule. Et du coup, donc, je vais vous parler d'un bouquin qui se nomme donc « C'est pour un garçon ou pour une fille ?» La dictature du genre est donc, a été écrit par Georges-Claude Gilbert. C'est aux éditions Autrement, à la collection Frontières. Il a été écrit, enfin publié en 2004. Donc c'est un bouquin, comme son nom l'indique, qui nous parle de genre, mais pas que. Alors il commence par une citation de RuPaul, une célèbre drag queen, qui nous disait « Nous naissons nus, tout le reste n'est que travestissement ». Et du coup, donc l'auteur revient surtout en fait sur l'opposition du sexe dit biologique et du genre. Et pour lui, il nous dit qu'en fait, le gros souci, bien sûr, que pose cette distinction qui n'est pas toujours faite, c'est que pour lui, le genre et le sexisme sont totalement liés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour nous expliquer en fait cette distinction qui n'a pas toujours été faite, il remonte dans l'histoire pour piocher des signes de domination masculine. Et alors, ça passe complètement par l'art. Par exemple, on nous dit qu'effectivement, la majorité des artistes étaient des hommes. Et que du coup, on ne peut pas négliger que l'art a été aussi influencé par ça. Il nous parle aussi, bien sûr, de la mode vestimentaire, faite de bonne égalité, quand les femmes portaient des corsets et les messieurs avaient plus de confort, bien sûr. Et il nous dit que pour lui, la meilleure invention du patriarcat, sexiste en plus, et l'invention de l'équation sexe égale genre, parce qu'effectivement, il repose sous tout un tas de présupposés. Alors, on en a déjà parlé ici, j'en ai déjà causé, mais voilà, quand on nous dit qu'effectivement, les femmes ont plus de sentiments, la fibre maternelle, que les femmes... Une femme chef sera plus, vous savez, douce et compatissante, alors qu'un homme, c'est dur et tout ça.
J'ai jamais remarqué ça, moi, pour les femmes chefs.
Non, étrangement, hein, pour les patrons restent des patrons. C'est pas la question ce soir, mais voilà. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans le bouquin, donc là, c'est vrai que c'est des choses assez vues et revues, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et en fait, il questionne aussi l'apparition du fait de penser les êtres humains en les différenciant par leur sexe biologique. Et donc du coup, il répond pas tout à fait, mais il a le mérite de poser des questions en nous disant, est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est le milieu où grandit l'enfant. Et alors pour ça, il nous donne l'exemple de sa petite nièce qui a été élevée en fait par des parents et des grands-parents qui ont justement essayé de lui donner, enfin d'acheter plutôt des jouets, on va dire, neutres. D'éviter bien sûr le rose dans la penderie, enfin voilà. Et pour Noël, elle souhaite, dans sa liste de Noël, elle souhaite un costume d'indienne. Donc lui, il parcourt les magasins en essayant de chercher un costume d'indienne et il trouve pas ça. Donc il achète, donc l'auteur, un costume d'indien. Et en disant ça va passer. Et puis bon, sur le carton, pour jouer l'expérience justement, il indique, enfin il rajoute un E à costume pour que ça, enfin un NE pour que ça fasse costume d'indienne. Le matin de Noël, la petite ouvre la boîte et dit « Mais je t'avais demandé un costume d'indienne, pas un costume d'indien. » Et donc, il lui demande « Mais comment tu peux savoir que c'est un costume d'indienne et non d'indien ?» Et elle lui répond « Mais parce que déjà, les indiennes ont une jupe et là, c'est un short. Et puis, surtout, les indiens ont plusieurs plumes à leur coiffe, alors que les indiennes, normalement, devraient en avoir deux, trois. » Alors, l'exemple est complètement parlant parce que cette petite, enfin cette fille qui du coup a été quand même élevée dans un milieu où on a essayé justement de neutraliser pas mal de choses, a quand même des présupposés, et encore un présupposé qui est quand même fort, c'est-à-dire que les Indiens, eux, hommes, ont le droit à pas mal de plumes, mais les femmes n'en ont le droit qu'à 3. Alors, on va dire que voilà, hein, si ça commence déjà à 8 ans, vous pouvez imaginer la suite. Et donc, voilà, il nous dit, est-ce que c'est l'école ? Est-ce que, enfin, effectivement, hein, l'école est un lieu de socialisation où, malheureusement, et que ce soit et l'entourage et carrément le corps professoral n'a pas toujours... ne donne pas toujours les bons exemples. Donc voilà, il questionne un peu le milieu où grandit les enfants. Alors il revient aussi sur la notion de féminisme constructionniste et de féminisme essentialisme. Donc lui, il est complètement dans un féminisme constructionniste, donc qui effectivement suppose que le genre n'est qu'une construction et qui différencie complètement l'inné de l'acquis. Il revient aussi en fait sur les problèmes de vocabulaire, et c'est là que j'ai trouvé intéressant, où je me suis dit tiens, c'est vraiment quelque chose que ce bouquin amène. C'est le problème du vocabulaire du genre, en tout cas au niveau de la langue française, parce que c'est vrai que là ça va faire ça commence à faire des années et des revues et des manifs où on utilise ce mot de genre. Le souci, c'est qu'en fait il pose vraiment un souci dans notre langue, parce que le genre biologique, ramène en fait à la sorte. C'est une sorte, une manière. On a aussi le genre en cinéma, ou vous savez, le genre musical. Donc du coup, le mot genre pose complètement souci au niveau de genre masculin, féminin. Et lui, il dit qu'effectivement, l'équivalent anglais, en tout cas gender, c'est plutôt les éléments constitutifs de l'identité d'une personne, comme son sexe biologique et ses sexualités. Donc du coup, lui, c'est pas lui qui fait la proposition, mais en tout cas, il supporte la proposition d'utiliser plutôt genderisé. Et surtout, il nous dit que ça nous permettrait en fait de dire que il y a des éléments de notre qui sont complètement genderisés. Et par exemple, il nous dit bah oui, il faut admettre aujourd'hui que l'histoire qui a été écrite et qui a été racontée, retranscrite par une population majoritairement masculine, est complètement genderisée. Et pareil pour l'art, et pareil pour tout un tas de choses en fait. Après, il y a des chapitres, pas plus légers, mais en tout cas qui sont sur la littérature, la culture populaire. Voilà, il nous donne des exemples de genre, de sexisme. Il revient également un peu sur les théories queer. Et voilà, en tout cas, c'est un ouvrage qui doit faire à peu près une centaine de pages, qui réexplique des bases, mais qui apporte des nouvelles questions, comme je disais, effectivement, ce problème de vocabulaire sur le genre. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon d'écrire. Il est complètement grinçant, ce tome-là. Très critique sur les avant de la Manif pour tous, parce qu'il a été écrit en 2004, donc il n'y avait pas ça, mais vous inquiétez pas qu'il est là pour taper dans le facho et dans le cato. Et surtout, il est totalement abordable au niveau de la lecture, parce que moi je trouve que c'est un vrai problème aujourd'hui de trouver des bouquins sur qui posent ces questions-là et qui sont abordables, qui ne reviennent pas, enfin qui font pas, il y a pas 10 notes de bas de page, vous savez, hein, qui renvoient encore à un autre texte. Il pose quand même des auteurs connus comme Butler et tout ça. Alors il est pas spécialement complètement critique envers elle, surtout. Il est critique envers d'autres, par contre. D'ailleurs, ses collègues de cours en prennent aussi pas mal pour leur grade. Hein. Il y a pas mal d'exemples, alors qui vous font grincer des dents comme pas possible, mais lui aussi. Et du coup, je trouve, et en plus, ce qui est super important et intéressant, c'est qu'il il insiste tout au long du bouquin pour distinguer sexe, genre et sexualité. Ce que ne fait pas, par exemple, Judith Butler, entre autres. Et il explique, en fait, les parallèles dangereux qui sont faits quand on ne les distingue pas. Alors, pareil, c'est encore à titre d'exemple, alors qu'ils sont assez humoristiques, mais qui malheureusement parlent d'eux-mêmes. Et je trouve ça intéressant parce que, malheureusement, comme je le disais, ça n'a pas toujours, enfin, ça n'a pas été toujours fait. Ça a été repris par notre chère Manif pour tous, qui nous disent que non, il ne faut surtout pas enseigner cette distinction entre le sexe et le genre à l'école, parce qu'on ne sait jamais si les enfants deviennent homo. Donc voilà, c'est comme, enfin voilà, ouais, c'est parlant, c'est qu'il y a un amalgame qui est fait entre le genre et la sexualité. Et malheureusement, c'est pas que porté par la Manif pour tous. Il y a des féministes qui portent aussi cette notion et qui adorent raccrocher ces parallèles et nous dire que, bien sûr, que le genre et la sexualité sont complètement liés. Voilà, donc je rappelle les principales infos. C'est pour un garçon ou pour une fille, la dictature du genre. C'est écrit par Georges-Claude Gilbert aux éditions Autrement.
Ben, ça a l'air super intéressant. Et moi, tu parlais de l'histoire et justement, il y a une anecdote assez drôle. C'est, vous savez, il y a tous les bas du front, le 1er mai, ils vont devant une statue dorée pour rendre honneur à cette sainte Jeanne d'Arc. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'il y a plein d'historiens qui disent qu'en fait, Jeanne d'Arc, c'est une pure construction justement du patriarcat. Parce que d'abord, au départ, personne ne sait qui était cette Jeanne d'Arc. On sait que c'était une femme, déjà, à peu près. Ou pas, parce qu'après tout, il y a des gens qui disent c'était peut-être d'ailleurs quelqu'un qui n'était pas femme à l'origine, à la naissance, hein, comme voilà, qui peut-être se reconnaissait comme femme. Et puis, surtout, il a fallu qu'elle soit pucelle. C'est-à-dire qu'elle soit pure. Ça, personne ne peut le vérifier, mais par contre, dans l'histoire, on vous apprend bien que c'est Jeanne la pucelle, elle est pure. Hein, voilà. Et puis surtout, bah, elle est sous l'égide d'un mec, parce que c'est Dieu qui lui dicte ce qu'elle doit faire à cette brave petite femme. C'est-à-dire qu'elle était trop conne, elle toute seule, pour aller bouter les Anglais hors de France, vous pensez bien. Donc du coup, vous voyez, c'est enfin, pour moi, quand tu parles justement de construction et construction à travers l'histoire, bah, alors Jeanne d'Arc, c'est l'exemple typique de la construction patriarcale qui va bien. Mais ça tombe bien, parce que c'est tous les bas du front vont lui rendre hommage, ça m'étonne pas trop. Mais bon, voilà. C'était pour dire, mais ça a l'air vraiment très intéressant. Et tu l'as trouvé à la bibliothèque, c'est
moi,
ça?
Moi, je l'ai trouvé à la bibliothèque, donc ouais. il se trouve.
Bah, c'est cool.
Il se trouve.
Il se trouve à
l'époque. Et s'il ne se trouve pas, demandez-le. Mmh.
Quelque chose à ajouter?
Non, je en fait, je me disais que c'est toujours intéressant, en fait, parce qu'au final, oui, moi, j'ai déjà aussi lu des bouquins sur le. Mais au final, je me rends compte que. Ça nourrit toujours en fait cette réflexion sur justement sur les définitions, sur etc, sur le vocabulaire qu'on utilise. Et enfin, ça nourrit toujours encore notre petit cervelet.
Donc lisez, ça fait pas de mal.
Ouais. C'est ça.
Le contraire nous aurait étonné.
Bah oui, mais bon, comme il y en a qui brûlent des livres parce qu'il paraît que c'est dangereux, oui. Bah vous voyez, il faut lire. C'est peut-être pour ça que c'est dangereux.
C'est
parce que
ça
évite de haïr les autres de lire peut-être. Bah voilà.
On passe à la musique.
Allez.
Towards the light I will move on, and so I learn to move the one before the next. The steps I take will pave the road ahead of me. Yeah.
Vous êtes bien à la causerie sur Radio Canu 102.2 et on vient de s'écouter The Gathering avec Your Troubles Are Over.
Oh, c'était bien. Voilà. J'attendais que tu sois prêt, donc je comble.
Merci.
Parce que Jean-Yves, alors on va vous raconter les choses. Mais... Si, on va raconter, parce que quand même les auditeurs, ils savent pas. C'est que, bah, comme vous savez que Radio Canu est une radio autogérée qui a besoin de sous et qu'on vous fait un appel aux dons, s'il vous plaît, donnez-nous des
oui,
sous.
Oui, on n'a plus d'ampoule.
Et ben là, on n'a même plus d'ampoule dans le studio pour dire quand est-ce qu'on est à l'antenne ou pas. Et Jean-Yves, il a essayé de changer l'ampoule là pendant la musique et voilà. En fait, voilà, on n'en a pas. Donc il faut envoyer vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101, 69 200 Lyon CEDEX 01 où vous passez le mardi entre 19 et 20 heures à la radio et on prendra vos dons avec plaisir. Voilà, soutenez-nous.
Alors, je voudrais quand même rassurer les gens, on a encore de quoi acheter des ampoules.
Oui,
c'est vraiment pour
l'humour.
C'est pour le local.
Oui, c'était pour l'humour. Là, c'est vraiment pour l'achat du local.
L'achat.
Ok. Hashtag local. Ah tiens, on va lancer un hashtag local Radio Canu, ça va être marrant. Bon,
oui.
Alors Jean-Yves,
oui.
De quoi tu voulais parler ?
Eh bien, je voulais vous parler du Zélium nouveau, du nouveau Zélium. C'est un magazine, enfin c'est un bimestriel satirique, parce que c'est le numéro 2 qui vient de sortir. Et je crois qu'on vous en avait déjà parlé à la causerie quand on parlait des médias libres et indépendants. Et que je me suis dit, tiens... Pour une fois, je ne vais pas taper sur les curés et tout ça. Et en même temps, quand tu regardes la une, c'est une bonne sœur avec un crucifix en main. Mais bon,
et qui dit,
moi, c'est le sexe qui m'a rendu accro au petit Jésus. Voilà. Et donc, comme vous l'aurez peut-être compris ou pas d'ailleurs, ce numéro 2, il est spécial addiction. Donc le titre, c'est Tous addicts. Alors, je voulais quand même vite fait rappeler que, ben, au final, Zélium, c'est... C'est une asso qui est en Vendée, je crois, oui, c'est ça, qui est en Vendée, et qui est donc libre, sans actionnaire et sans pub. Et la maison d'édition qui y a collé, en fait, c'est Jack, enfin, l'asso, c'est Jack is on the road. Yeah, baby!
Yeah,
baby. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait dire ça. Et ben, ils font aussi des livres, en fait, des BD. Je crois qu'on en a. Je me demande si j'en avais pas déjà présenté une ici. C'était Dieu est à mur, non?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc, ah oui, alors je préviens, tous ceux qui n'aiment pas la satire, tout ça, non mais passez sur Radio Chrétienne de France. Parce que là, c'est un peu du même acabit que Charlie, ou attention, j'ai peur de le dire.
Allez vite acheter votre revue.
D'ailleurs, on sent que c'est une asso franco-belge, hein, parce qu'il y a beaucoup d'humour belge finalement.
Belge.
Non mais, vous savez, cette espèce d'humour un peu décalé que font les Belges, que j'aime beaucoup, où on a l'impression que le texte est au premier degré, en fait, quand vous finissez de le lire, vous dites non mais en fait, c'était complètement débile et c'est très drôle. Voilà.
C'est ça. Et donc, effectivement, enfin, je vais citer deux, trois dessinateurs. Il y a Bert, il y a De Creusac, il y a Sergio, il y a Jimzy. Et ils ont fait des bouquins, effectivement. C'était Clomp, Dieu est à mur, et Ça sent mauvais. C'est le dernier qui est sorti, d'ailleurs. C'est une BD des strips de Bert, et qui est sorti il y a vraiment peu. Et, je veux aussi rappeler ça quand même, c'est que eux, comme nous, au final, comme souvent les médias indépendants, et ben au final, ils vivent grâce à la solidarité des gens, quoi. Parce que au final, pour sortir ce Zélium là, ben il y a des gens qui ont filé de la thune parce que ils ont pas un copec pour sortir la BD dont je vous parlais, Ça sent mauvais, avec les strips de Berthe. C'est pareil en fait, c'est en fonctionnement. Alors crowdfunding, enfin d'appel, on va dire. Moi, je préfère garder ce titre-là d'appel.
De préachat, en fait.
Ouais, de préachat. Et donc voilà. Donc c'est un peu leur fonctionnement à eux aussi. Et c'est peut-être un peu pour ça que j'aimais en parler aussi, parce qu'au final, entre indépendants et libres et rebelles, bordel, et ben faut se soutenir. Donc voilà. Et juste quand même pour donner un petit peu le ton du journal. Ouais, je voulais vous lire l'édito parce que je pense que ça peut tout de suite vous donner un peu le ton du truc. Donc je vous lis ça. On a tous nos manies, nos petites habitudes, plus ou moins nocives ou néfastes pour nos fatales existences. Néfastes pour soi-même ou pour les autres, on le sait. Et pourtant, on remet le couvert et on en rajoute une louche, on s'en resserre une belle lampée. Insatiable, insatisfait, en permanence. Et comme une petite musique lancinante, on entend les perles à morale nous inciter à faire gaffe, à réduire nos doses frénétiques, à pratiquer une activité physique, à se goinfrer 5 fruits et légumes blindés de pesticides par jour, à arrêter la fumette, l'alcool, le sel, le sucre, le café ou le piment. Injonction à modérer nos injections quotidiennes de produits plus ou moins toxiques.
En revanche, la consommation tout court, les soldes toute l'année, les bobards politiques et les raccourcis médiatiques, tous ces cachetons produits par notre belle société Liberté, Égalité, Carte Bleue, il faudrait les avaler sans broncher et sans vomir. Dormez tranquille, restez de bons citoyens, priez, votez, achetez, matez la télé et surtout laissez la révolte aux démunis, aux exclus. Cette vraie drogue dure ne tue pas. Elle disperse, elle ventile. Elle divertit pour faire diversion. Mais franchement, à jeter un œil sur la vie conforme, on se sent mieux d'avoir la nausée. Et on en deviendrait presque accro à cette envie de gerber. Voilà, voilà.
Je sais pas si le ton est donné.
Le ton est donné.
Ouais, je trouve. Et donc voilà, enfin, et c'est vraiment. C'est toujours du Zélium, c'est très. Les articles sont vraiment très sérieux, enfin, il y a vraiment du travail journalistique derrière, mais en même temps, ça garde un ton toujours un peu.
Grinçant.
Ouais, moi j'aime bien. Et je vais juste vous énumérer vite fait enfin, les sujets qui sont abordés dans ce numéro-là. Alors, ça va du cannabis, critique des contres, danger du tabac. ça nous parle aussi des solutions comme les space cakes ou les vaporisateurs qui limitent l'inhalation de gaz, etc. Et justement, c'est très drôle parce qu'ils disent en fait, ce qu'il y a de plus dangereux dans le pétard, c'est le tabac, quoi. Et c'est ça qui rend accro, en fait. Et donc voilà, et ça parle aussi du Mexique qui parle, enfin, et du règne des narcotrafiquants qui sont infiltrés en fait jusqu'au couloir du pouvoir. Il y a un entretien avec un universitaire de Mexico. Donc voilà, on est toujours entre le sérieux et tout ça, mais il y a aussi des trucs très sérieux. Il y a aussi, oui, il parle aussi de la soi-disant dépendance aux jeux vidéo. Et c'est vachement intéressant parce que au final, ils disent en fait, enfin. C'est pas tant les jeux qui rendent accro. Enfin, des fois, il y a d'autres trucs à côté. Et puis, il parle des gens qui vivent ça aussi comme un esprit de communauté, qui au final se rencontrent et que au final, enfin, quelque chose qui rend accro et qui te fait du lien social, c'est rare quand même. Hein. Souvent, les choses dans lesquelles tu peux être accro, des fois, ça te coupe un peu du monde. Donc voilà. Et il y a aussi un article justement toujours dans cette thématique, thématique de la dépendance aux jeux vidéo. Il y a un article sur l'asso Pied dans le PAF qui fait en fait des interventions dans les lycées, je crois, et qui parle au final de l'image. Et c'est vachement intéressant parce qu'ils disent en fait, enfin, ils sont pas là pour dire aux jeunes ce qu'il faut penser ou pas, c'est plus démontrer en fait toute la. Comment dire. Enfin, les genres, les émissions de télé-réalité, c'est écrit, il y a des choses qui sont refaites. Enfin,
En fait.
C'est ça, enfin, tout ce qui est derrière les images. Et que c'est pas de la vraie, enfin c'est pas de la réalité quoi. On ne rejoue pas une réalité. Elle a lieu une fois et puis voilà. Et donc c'est vachement intéressant. Et ça parle aussi effectivement de la pratique du sport et de cette dépendance en fait qui rend accro. Enfin le sport à outrance peut rendre accro en fait à l'endorphine, voire au dopant. C'est super intéressant et ça je crois que je l'ai déjà dit aussi. Attention, hein, le sport à outrance tue 1200 personnes par an en France, plus que d'overdose.
C'est vrai.
C'est de temps en temps, il faut se le rappeler, ce genre de chiffres. attention, je dis pas qu'il faut faire des OD. Hein.
Mais plutôt que de courir, piquez-vous.
C'était le message du soir. Non, pas du tout, mais c'est, encore une fois, c'est hyper intéressant quand même, parce que c'est des chiffres dont on parle pas, quoi.
Ouais.
Parce qu'on nous fait toujours parler de ce corps sain dans un esprit sain, toutes ces conneries-là.
C'est comme les morts au travail dont on parle pas, parce qu'il faudrait pas montrer que le travail tue.
C'est ça. Quoi. Il parle aussi effectivement du côté addiction à l'économie et c'est vachement, enfin c'est très drôle parce qu'il parle du système capitaliste etc et il parle de prendre une ligne de cure de croissance etc. Enfin c'est effectivement il y a des parallèles qui sont hyper intéressants. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi oui sur les jeux de hasard et le PMU et la Française des Jeux qui en fait ils font l'aumône en fait pour qu'on étudie et qu'on traite les malades qui créent eux-mêmes en fait. Donc c'est vachement intéressant aussi. Et dans le journal vous trouvez aussi parce que c'est sorti au mois de janvier, je sais plus maintenant. C'est février-mars, pardon. Et donc il y a aussi un petit dossier autour de Charlie Hebdo et c'est pas que du dessin, il y a aussi de l'article. Donc encore une fois c'est très intéressant et ils en profitent aussi à ce moment-là de parler d'un site, alors je ne suis pas allé voir, c'est media-libre.org en fait c'est des médias indépendants donc il y a Zélium et plus d'une soixantaine de journaux au final qui militent pour une répartition différente aussi du pognon en fait qu'on file aux journaux quand même, parce qu'il y a des fois des choses qui sont quand même assez aberrantes.
C'est clair.
Et il y a aussi autour du sexe, sur l'addiction au sexe, il y a aussi, ça c'est aussi très bon, il y a une chronique de Super Ducon sur l'athéisme. C'est très très bon, c'est vraiment très bon, moi j'adore. Ça craque et ça gratte. Et il y a aussi une chronique littéraire de Noël Godin qui est l'Entarteur, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Donc lui, enfin voilà, c'est toujours très bon aussi. Et comme dit, enfin tout ça c'est accompagné de dessins. Enfin, moi, j'adore vraiment le ton de Zélium. C'est quelque chose de très, très bon. Quoi.
Bah, on peut peut-être donner un ordre, un peu une idée du type de dessin. C'est dur de le faire à la radio. Alors, je vais essayer de le faire. Sur un dessin, par exemple, vous avez une Marine Le Pen très stylisée qui a un pouvoir écrit sur ses deux énormes seins avec de la coke. Elle a une paille dans le nez et elle sniffe ça et elle dit c'est encore meilleur sur du Wagner. Donc, vous avez bien compris le temps. Voilà, vous avez les Clinton. Chez les Clinton, on est accro au tabac. Alors il y a Bill Clinton qui est en face d'Hillary Clinton qui a un cigare cubain enfoncé dans le vagin et il dit cette histoire à 16 ans Hillary tu ne veux pas passer à autre chose et elle fait de quoi tu parles, je suis en train de saluer le rapprochement des États-Unis avec Cuba là. Voilà. Vous avez aussi un Strauss-Kahn libidineux tremblant à la barre et qui dit j'avoue j'ai passé ma vie à baiser, niquer, enculer ces salauds de pauvres. Mmh. Voilà. Et vous en avez une qui est magnifique avec un Mickey qui est une sorte de Mickey qui fait des dons. Vous savez, qui vend de la drogue à la sortie des écoles.
Avec un impair un peu comme
avec
ça.
Avec un impair et qui dit vous avez du fric, les chiards ? J'ai du Frozen et du Cars. Alors, Frozen, c'est la Reine des Neiges, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc, c'est juste des dessins magnifiques et c'est très, très drôle.
Voilà. Et donc, je vous le rappelle, il est, je crois, enfin, vous pouvez le trouver à peu près partout. Sinon, vous allez sur leur site. Que je vous rappelle peut-être, c'est zélium.info et ça vaut 4,50€ et c'est délicieux pour toutes celles et ceux qui kiffent le politique et en même temps du dessin satirique, etc. Voilà. Voilà, voilà.
Et donc chez les marchands de journaux. Hein.
Chez les marchands de journaux, ouais. Sinon, allez sur leur site, ils vous donnent les lieux de district. Et ben, on va direct filer en musique. Allez.
Il vaut mieux. Danse, prudence, que sur blessure. Pour être tout à fait honnête, comme je n'ai rien à vous prouver, je vais vous dire de cette planète ce qui ne m'a jamais dérangé. Que deux hommes se marient entre eux du moment qu'ils sont amoureux et qu'ils aiment leurs enfants, évidemment. Et pour être tout à fait franc, comme je n'ai rien à vous cacher, tout ce qui pense et autrement, vous m'emmerdez. Pour être tout à fait clair, et pour nous connaître mieux, je vais vous dire ce qui m'indiffère dans ce monde merveilleux. Qu'un étranger passe la frontière, qu'il vienne partager mon pain, si ça peut faire moins de misère, je le veux bien. Ceux qui trouveront démagogique cette façon de penser, vous avez compris la musique, vous m'emmerdez. Pour être franco de port, en y allant de but en blanc, j'ai eu beau faire tant d'efforts sur tant d'années et partout en route. Je ne comprendrai jamais rien aux riches qui veulent toujours plus d'argent pour le cacher en fiscale niche comme c'est navrant. Je vais le dire simplement, emportez-les sous terre ses pieds et avec eux tout leur argent, vous m'emmerdez. Pour être tout à fait exact, vraiment précis, on ne peut mieux, je m'en vais mesurer l'impact sur ma vie de tous vos dieux. Faire un pas dans la rue sans tomber aux bondieuseries sur une croix, un fou la rue, une Vierge Marie. Comment le dire sans rancœur, loin de vos mosquées et clochers, s'il vous plaît, priez dans vos cœurs sans m'emmerder. Soit nous avons fait connaissance, il serait bon de vous dire la vérité en toute conscience qui pourrait nous anéantir. Jamais le pouvoir, je serai bien plus loup que vos loups. Demandez donc à ma guitare si je suis fou. Alors je reste dans mon coin, sans autre forme de procès que de vous chanter ce refrain, vous m'emmerdez. Et je n'ai nul autre besoin, vous priant de me pardonner, que de vous chanter des refrains pour vous emmerder.
Eh ben, on est de retour, vous êtes bien à la causerie et on vient de s'écouter. Pardon. J'ai tout foiré mon lancement. On vient d'écouter Vous m'emmerdez des ogres de Barbac. Un titre qui fait un bien fou. Enfin, oui, en tout cas, me concernant.
Ça va oui, bien c'est... après.
Hein. Ah, ouais. Oui, ça fait du bien. Et ben.
Mais je vais faire deux petites brèves,
ouais,
si ça vous va.
Ouais.
Alors, voilà, alors je me suis perdu, ça, je reviens. Oui, alors, s'il y a. Première chose, c'est une conférence débat qui s'appelle Syrie, quelle révolution ? C'est le 5 mars à 18h. Alors, ça doit être à Lyon 2, 4 bis rue de l'Université, dans le 7e. Voilà. Et c'est autour de ce qui se passe en Syrie. Par exemple, l'exemple de Kobané, qu'on disait perdu, et qui finalement, on se rend compte que quand les populations se soulèvent, c'est pas si perdu que ça. Enfin, voilà, c'est tout le décryptage un petit peu de ce qui se passe en Syrie en ce moment.
Oui, parce qu'autant il y a les militaires de l'État de Syrie. De Bachar al-Assad, y a les cinglés, les fous de Dieu
de Daesh,
et entre tout ça, enfin voilà, il y a des gens qui
ils insistent beaucoup sur la notion de révolution égalitaire et féministe qui se passe à Kobané, et que voilà, ils veulent vous parler un petit peu de tout ça. Donc c'est donc le 5 mars à 18h. Et le même jour, si je ne me trompe pas, oui, c'est le même jour, le 5 mars, il y a un documentaire Remue-ménage dans la sous-traitance qui est diffusé à La Plume Noire, mais c'est à 20h, l'entrée est à prix libre. Le titre du documentaire parle pour lui-même, hein, c'est autour des luttes dans toutes les sociétés de sous-traitance. Et voilà, c'est donc, je l'ai dit, oui, à La Plume Noire, et j'ai pas dit où c'était, c'est 8 rue Diderot dans le premier.
Yes.
Voilà, pour les deux petites brèves de la semaine.
Ouais. Et puis, on voulait aussi parler d'un petit truc. Alors d'abord, on ne savait pas si on allait faire un sujet vraiment. Et puis on s'est dit, ça ne mérite peut-être pas quand même qu'on
non,
y passe trop
pas.
Longtemps. Mais on ne sait pas si toi, ami, auditeur, auditrice de Radio Canu, si des fois tu sors un peu du monde spécifique à Canu et des militances, etc. Mais il y a un truc qui s'appelle les Restos du Cœur, avec une troupe musicale fantastique qui s'appelle Les Enfoirés. Et puis, comme tous les ans, hein, c'est une habitude qu'on a maintenant.
Comme la grippe, ça revient toujours.
C'est ça.
Et on a des difficultés à s'en débarrasser, ça revient.
C'est ça. Et puis, là, ils ont sorti dernièrement un truc qui s'appelle Toute la vie.
Ah, c'est des Enfoirés qui ont sorti ça.
Oui, c'est la troupe fantastique de troubadours, plus riches les uns que les autres, qui a sorti donc cette chanson écrite par
Gigi Goldman.
Pardon.
Le français préféré des Français.
Oui, c'est ça, bien
c'est
évidemment.
Ça, ouais.
Et que qu'en dire, Emma?
Qu'en dire, on était obligé de. Enfin, je pense que vous avez dû le voir parce que ça a énormément circulé sur les réseaux sociaux et un peu de partout, mais dans la causerie, on voulait quand même pousser notre petit coup de gueule. Parce que voilà, hein, si vous avez eu le bonheur de louper cette chanson, vous assistez en fait à un espèce de duel, une rivalité entre un groupe qui serait censé représenter les jeunes de la population, donc les 16-25, on va dire, et donc les personnes matures. Alors ça va de, vous savez, cette chère personne de Zaz à justement Jean-Jacques Goldman, quoi. Donc étonnamment aussi les 25-60 ans, on va dire, enfin tout mélangé, et voilà, qui s'affrontent à coups de rivalité et de tu as laissé la terre polluer, ah oui mais non mais c'était toi, non mais toi tu es un pauvre chômeur, il faut que tu te bouges le cul, enfin voilà, c'est complètement moraliste.
Ah oui, clairement.
J'ai noté deux trois paroles.
Allez,
quand même, parce
vas-y.
Que c'est donc ceux qui sont représentés, enfin que représentent les Enfoirés, ils disent on s'est battu, on n'a rien volé, tout ce qu'on a, il a fallu le gagner, à vous de jouer, mais faudra vous bouger. Tu vois le truc?
Alors bon, les Enfoirés qui n'ont rien volé, vu le nombre de personnes qui ont placé du fric en Suisse pour
il
pas payer des impôts.
Et,
et un autre truc, c'est aujourd'hui j'envie tellement la jeunesse. C'est vrai, c'est tellement beau.
C'est une parole de réac de base, ça veut dire oui. T'es jeune, te plains pas.
Oui, puis alors nous, la jeunesse, on a le droit apparemment. Alors nos mots, ce sont le sida.
Ouais. Oui.
Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Je crois qu'il y a aussi
le chômage.
Oui, le chômage, voilà. Ouais.
Effectivement.
Que des trucs joyeux. Ouais. La violence aussi, je crois.
Oui, ouais, la violence, le chômage, sida, voilà. Comme ça.
Ouais. C'est merveilleux, hein, je trouve que ça donne envie, quoi. Non, mais c'est, ouais. Mais c'est vraiment une chanson réac. Hein,
alors, ce qui est. Alors après, moi, j'aime bien me faire l'avocat du diable.
Qui n'existe pas.
Bien évidemment. et au final, c'est. Il y en a qui disent, en tout cas ceux qui sont autour des auteurs et des enfoirés, tout ça, qui disent « Non, mais le texte a été super mal perçu. » Et d'un côté, je me dis « Ok, why not ? Pourquoi pas ?» Parce qu'on pourrait l'entendre que, à la rigueur, c'est pour démontrer un peu la stupidité, on va dire, ou on va dire, je sais pas comment dire, la facilité qu'aurait la génération un peu plus ancienne à dire aux jeunes « Ah, bah, vous avez qu'à vous bouger.
Ouais. »
Sauf que...
Sauf qu'il y a le clip, quoi.
C'est ça, en fait, je me dis, avec tout le pognon qu'ils amassent, mais même en dehors des restos, hein, mais eux, là, les artistes, ils auraient quand même pu, je sais pas, essayer de se payer un clip un peu...
Non mais là, le clip montre clairement, on est clairement dans l'affrontement, l'affrontement, on est dans la leçon donnée par les enfoirés d'un côté, les jeunes de l'autre, et on n'est pas du tout dans le second degré. Ou alors, où je suis très mauvais en second degré sur ce coup-là, mais là, franchement, moi, je ressens pas deux secondes le second degré dans le clip, quoi, entre les gestes de cette mimimatique et celle malheureusement, d'expliquer aux jeunes que voilà,
et Michel Larocque
femme de ministre, enfin d'ex-ministre, qui nous explique qu'elle a rien volé. Enfin, je trouve que c'est merveilleux.
C'est ça. C'est un peu comme tous les ministres qui nous parlent des assistés, etc., et qui eux ne volent jamais rien.
Non, mais le clip, il est sans ambiguïté. Je veux dire, on n'est pas dans le second degré, quoi. Ouais. Enfin, voilà.
Non, mais c'est ça, c'est qu'ils ont essayé, bien sûr, après, de s'expliquer, de dire que non, il fallait prendre le message comme quelque chose de positif. Et moi, ça me fait juste penser, vous savez, à tous ces artistes aussi qui ont écrit des textes complètement homophobes, antisémites, et qui après viennent nous dire qu'ils ne savaient même pas ce que c'était que l'homophobie.
Ah oui, tu pensais à Section d'Assaut.
Par exemple, je ne sais pas.
Voilà. Bon, non mais voilà, mais c'est pour dire que c'est quand même un peu triste d'en arriver là. Moi, je voulais juste te dire qu'il y a plein d'associations qui font du boulot aussi, il n'y a pas que les Restos du Cœur. Et dire que si on a envie de soutenir les Restos du Cœur, il y a mieux à faire que d'acheter les disques des Enfoirés. Ouais. Vous allez directement au Resto du Cœur, vous filez du temps et des dons et de la bouffe, ce sera bien plus efficace que d'acheter un disque merdique comme ça.
Ouais.
Avis personnel.
Ouais, puis moi j'en profite pour dire qu'il faut toujours vous méfier quand une association est portée comme ça, autant que les Restos du Cœur, parce qu'effectivement il y en a d'autres qui sont dans le noir et malheureusement qui ont besoin d'aide et qui font... je dirais même pas 3 fois plus, mais 10 fois plus que ce que font les Restos du Cœur. En tout cas, je critique pas la base des Restos du Cœur, mais ce que c'est devenu, et surtout tout cet engrenage qu'il y a autour qui mérite pas d'être, quoi.
Bah, là-dessus, je serais d'accord avec toi, et surtout que je pense qu'on pousse en avant les Restos du Cœur parce qu'ils sont apolitiques.
Exactement.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne posent pas de questions politiques, ils ne gênent pas. Alors qu'il y a d'autres associations, je pense au Secours Populaire, par exemple, qui sont un petit peu plus grinçants et politiques, et eux, on n'aime pas bien les mettre en avant. C'est un peu la même chose qu'entre Médecins du Monde, qu'on met en avant, et qu'on met pas trop Médecins Sans Frontières. Ce que Médecins Sans Frontières a tendance à dire, c'est un peu la faute des gens qui donnent pas de sous qui a ce problème-là, alors que Médecins du Monde dit oui, on soigne les gens. Vous voyez, c'est un peu pareil, quoi, je trouve. Voilà, je perds mon casque.
Et qu'encore une fois, en disant qu'ils sont pas apolitiques, ils sont fortement politiques.
Oui, oui, bah, ils se disent neutres, mais finalement, ils neutralisent.
Et à la rigueur, là, vu que j'ai Zélium devant mes yeux, je me dis, je conseille à Jean-Jacques Goldman, s'il nous écoute, et à ses amis autour, réalisateurs et tout, de contacter peut-être les auteurs de Zélium pour prendre des leçons de second degré,
voilà,
de troisième degré ou de quinzième degré même. Peut-être que ça pourrait les aider, je sais pas. Voilà, voilà.
Juste dire qu'il n'y a pas Rémi après nous et que les yeux grands ouverts ne seront pas là ce soir. Donc voilà, on signale aux gens qui auraient envie de ne pas écouter les bandes continues qu'on va bientôt terminer. Voilà. Et puis ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?
Et ben que quand même, si je voulais préciser, parce qu'on n'avait peut-être pas forcément parlé quand Nadège et quand Jonathan sont venus, c'est ne vous inquiétez pas, vous les réentendrez. C'est un fonctionnement libre. Chacun vient quand il peut, quand il veut. Et voilà.
Prends son ticket.
Oh non, il n'y a même pas de ticket. Hein, y a une entente. Voilà, on discute, on fait tout ça ensemble. Et donc voilà, c'était juste pour donner un peu, parce que les gens peut-être qui peuvent se dire, mais ils sont déjà partis.
Mais non,
vous inquiétez pas.
Moi, j'ai un appel à lancer. On a bientôt notre 100e qui arrive. Voilà, et bah oui, bah, ça va faire la 100e de la causerie. On a la 91e dans 9 émissions. Et toi, auditeur ou auditrice, si tu as des talents pour faire un petit jingle ou un petit, comment dire, un petit truc d'ouverture. Voilà, un petit, comment on appelle ça d'habitude ? Un générique, je cherchais. Un générique pour la causerie, voilà. Eh bien, ne te gêne pas. tu l'envoies à lacauderiecanure@gmail.com. C'est un concours qu'on va lancer. et tu ne gagneras pas grand chose. Si on peut t'envoyer des autocollants de la causerie si tu veux. Tiens,
oui, voilà. C'est vrai.
Mais ouais, non, sans déconner, si vous avez envie, voilà, parce qu'on se galère un petit peu à trouver quelque chose. Et donc voilà, si vous avez des talents de créateur ou de créatrice, eh ben, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Ouais.
Voilà.
Et puis vu qu'on a. Enfin, de toute façon, il y a le temps, quoi.
Non,
y a
pas...
non, je voulais juste aussi dire, ouais, il y a effectivement des stickers, des autocollants de la causerie. Et si vous, de l'autre côté du poste, vous avez envie d'en recevoir ou autre, contactez-nous par mail et on s'arrangera. Enfin, je trouve que ouais. Ça peut être sympa aussi de, voilà, d'échanger comme ça.
Oui.
Voilà.
Non, mais toi, je sais que t'aimes pas les autocollants.
Ne divulgue pas ça à l'antenne.
Non, je ne dirai pas plus. Non.
Bon, et ben, on vous souhaite à tous une bonne semaine.
Voilà. Ouais.
Et bien, justement, pour rendre hommage aux enfoirés, mm-hmm. On se quitte avec un titre des Fatal Picard qui s'appelle L'histoire d'une meuf qui, quand il était sorti, avait fait un peu scandale parce qu'il se moque un petit peu de ces gens qui n'ont plus de carrière si ce n'est de passer une fois par an sur TF1. Et que du coup, voilà, c'est très drôle à écouter. Voilà.
Obispo, on te fait des bisous.
Bonne allez, semaine, bonne soirée semaine. À toutes et tous.
Au revoir, Clara.
Au revoir.
Dans une minute, ça va être à toi. Tu trembles un peu, mais pas tant que ça. Dans le refrain de Santiano, c'est toi qui chantes le premier. Normal que cette année tu ne sois jamais passé à la méthode Coé. Entre ton album en hommage à Barbe Livien et ta reprise d'antisociale avec Muriel Robin, cette année ça va pas se passer comme ça. D'abord t'as un micro rien pour toi, tu sais exactement où sont les caméras. En plus t'as même couché avec Palmade et là. T'espères au moins qu'on te voit bien, t'espères au moins qu'on te cadre bien, t'espères au moins que sur le refrain, c'est toi qui tiens. Mimi Mati parle à moi. C'est l'année de ta vie. T'as kidnappé Cabrel, Obispo et Fiori. Avec la moustache, le crâne rasé, l'accent corse. Même Goldman saura enfin qui est le boss. Oui, depuis aujourd'hui, c'est ton année à toi. T'as injecté à Zenati une seringue d'Ebola. T'as offert de l'anthrax à Hélène Segarra. Et s'il faut aller jusque là, tu partageras la loge Elsa. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on t'aime bien. T'espères au moins sur le refrain, c'est toi qui tiens. Où est les gars par la main. Toi tu files un vrai rancard à ceux qui comme toi sont plus rien. Sans actualité, sans médias, sans public, sans rien. T'espères au moins. Vois bien, t'espères au moins qu'on te paye bien. T'espères au moins que sur le refrain, c'est toi qui tiens. Coluche par la main.
انا يا اليوم شو منقول.